bienvenue. Nous saluons aussi tous les internautes ce matin. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur et nous allons l'adorer, le louer, car il est digne. Et Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs.
Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir.
Ouvre.
Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir.
Encore, ouvre les yeux.
Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Levé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. De ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir
ensemble, tu es saint.
Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir.
Tu es saint encore.
Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Dans ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Levé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir.
Dairy Boy. Acclamez le Seigneur comme il se doit. Il est digne, il est fidèle. C'est une grâce incomparable. Alléluia. Et Jésus, avant de remonter vers le Père, a dit à ses disciples qu'il est préférable qu'il reste afin qu'il puisse envoyer le Saint-Esprit. Mes amis, je pense que dans notre marche chrétienne, je pense qu'il est bon de prendre en considération toute l'activité du Saint-Esprit. Il l'a envoyé pour nous, c'est-à-dire qu'il est avec nous, il est au milieu de nous, mais il vit en nous. Et je pense que pour avancer dans sa vie chrétienne, considérons ce glorieux Saint-Esprit qui vit en nous. Et nous voulons honorer sa présence, car quand nous nous rassemblons, il est là. Et c'est lui qui est l'accomplisseur de la volonté divine. C'est lui qui sonde les profondeurs du cœur de Dieu. Il communique à nos cœurs sa volonté parfaite. Certes, nous ne le comprenons pas toujours, ne l'entendons pas toujours et nous ne lui obéissons pas toujours. Mais une chose est sûre, cherchons ce glorieux Saint-Esprit. Travaillons notre communion avec lui. Et ce faisant, je crois qu'il déverse une onction de rafraîchissement dans nos vies. Un souffle nouveau, quelque chose de neuf, quelque chose de rafraîchissant, quelque chose de vivifiant, pour que nous puissions continuer notre marche avec lui. Prenons ce chant ensemble, un souffle nouveau.
Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit, donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. C'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi. Rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau.
la volonté divine, une église en adoration qui contemple le Dieu Tout-Puissant par la puissance du Saint-Esprit. Tu es fidèle et bon, tu es grand et puissant, Saint-Esprit. Tu es là, Seigneur. Tu es au milieu de nous. Est-ce que l'église peut adorer? Est-ce que l'église peut adorer la magnifique présence du Saint-Esprit qui agit au milieu de nous? Alléluia.
Souffle nouveau. Oh, un souffle nouveau.
De Dieu que je veux me tenir. Je veux entendre le son de sa voix.
Je veux rester
Ce lieu saisi par l'angoisse ce matin. T'as l'impression que t'es enfermé dans une situation où tu penses avoir épluché toutes les issues possibles. Et c'est avec le cœur rempli de désespoir que tu es entré dans ce lieu ce matin. Le Seigneur te rappelle que le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts est avec toi. L'esprit de la vie est avec toi ce matin. Alors que toi, tu penses avoir analysé toutes les issues possibles en te disant « c'est terminé », le Saint-Esprit te rappelle que l'esprit de vie est avec toi. Il te demande simplement ce matin de lui faire confiance parce qu'il y a un timing dans ta situation. Tu n'es pas le seul concerné. Il y a d'autres personnes qui sont dans cette situation et le déblocage ne peut opérer que par le travail de l'esprit chez chacun. Mais ce qu'il te dit à toi particulièrement ce matin, alors que tu penses que les issues sont bouchées, l'esprit qui amène les choses mortes à l'existence est avec toi. Et il déclare la vie sur ta situation selon son timing. Toi, fais-lui confiance. Fais-lui confiance et appuie-toi sur lui comme jamais. Ton Dieu est avec toi, te dit le Seigneur ce matin.
Et dans le prolongement de cette parole, nous servons un Dieu fidèle. Et il n'est pas un homme pour mentir. Tout ce qu'il promet, il l'accomplit. Tout ce qu'il promet, il l'accomplit. Et sa réputation s'est accrue à cause de l'accomplissement de toutes ses promesses. Donc serre cette parole dans ton cœur.
Les ténèbres devant moi n'ébranleront pas ma foi.
je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu me l'as.
Car il est digne et puissant, fidèle et pas un homme pour mentir. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur.
Mes amis, ce n'est pas juste des applaudissements là. Le Dieu, il est vivant, il est vrai, il est fidèle, il vous accompagne, il ne vous abandonnera pas. Toutes ses promesses sont oui, amen, on le croit ce matin. Amen. Je vois beaucoup de gens bien bronzés. On voit que vous avez passé un bel été. Et dans 2 semaines, il va falloir retourner à l'usine. Il va falloir retourner voir les collègues. Ça va être compliqué. Mais l'EPI propose des temps de ressourcement. Il y a plusieurs temps de ressourcement avec la rentrée qui prend place à l'EPI. Et j'aimerais inviter les parents d'enfants d'enfants qui sont de la section matérielle au CM2 à aller voir les équipes pour l'inscription à partir de dimanche prochain. Épisode reprend. Donc c'est le moment d'avoir des temps de ressourcement où nos enfants vont sortir de cette église avec Jésus dans leur cœur, avec des directions pour leur vie, etc. Donc n'hésitez pas à inscrire vos enfants qui sont entre la section maternelle moyenne et le CM2. Ensuite, il y a Between et Cado qui reprennent. Donc Between, c'est les 6e, 5e. Cado, c'est de la 4e au lycée. Eux, pour eux, la rentrée, ça sera dimanche 10 septembre en salle jeunesse. Ensuite, il y a le groupe des jeunes adultes, les 18 ans et plus. Alors, on dit les 0,25, mais on m'a dit que ça allait jusqu'à 30 pour certains. Donc, les 18 plus, la reprise, c'est le samedi 23 septembre en salle jeunesse. Alors, on parle beaucoup des enfants, des ados, mais il y a aussi nos aînés à l'EPI. Est-ce qu'on est content dans cette église de voir jeunes et vieux qui se réjouissent ensemble? Yes? Il y a une église qui aime ça. Donc on a une reprise aussi de nos aînés. Alors nos aînés, ça reprendra vendredi 8 septembre à 14h30 et toujours en salle jeunesse. Parce que vous êtes juste jeunes un peu plus longtemps que les autres. Donc la reprise des aînés en salle jeunesse, les aînés, n'hésitez pas à aller au point accueil. Donc il y a le plan pour toute l'année. On va changer cette année notre façon de communiquer sur les annonces. Il y aura des annonces de vie courante qui tourneront sur les télévisions dans le hall d'accueil, mais il y aura plus systématiquement chaque mois une annonce pour dire la semaine prochaine il y aura ça. Il y a un planning, il y aura toutes les informations au point accueil, mais on mettra cette année particulièrement le focus sur des événements et sur des services de l'église à un moment précis. Mais il n'y aura plus tous les mois une annonce pour dire la semaine prochaine il y a ça. Donc là vous avez un plan avec toute l'année, et puis dès que vous avez des questions, vous n'hésitez pas à aller au point accueil. Toute l'équipe aura les infos durant toute l'année pour vous communiquer tout ça. On est une église qui aime voir des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes confier leur vie à Jésus. Et il y a une session de baptême qui va reprendre place à partir du mercredi 13 septembre, une formation qui débute. Alors si dans votre cœur il y a des choses qui vous travaillent en disant mais moi je veux aller plus loin avec Jésus, peut-être des peurs aussi, dire mais j'ai pas le niveau là, il y a encore tellement de choses dans ma vie. Venez nous voir. C'est le bon moment. Prenez un rendez-vous au point accueil. S'il y a quelque chose qui bouillonne pour Jésus dans votre cœur, on aimerait pouvoir vous accompagner dans une session de formation. On va aussi enlever certains mythes qu'on peut avoir de, vous savez, il faut que je sois parfait pour être un disciple de Jésus. Non, c'est parce que tu as besoin de Jésus qu'il faut venir nous voir, qu'il faut venir t'engager. C'est parce qu'on est tous ici une église de gens qui ont compris que sans Jésus, on peut rien faire. Et c'est pour ça qu'on s'est engagé avec lui. Donc s'il y a quelque chose qui bouillonne sur ton cœur, viens nous voir, prends rendez-vous, tu prends un bout de papier au point accueil, tu demandes rendez-vous avec l'équipe pastorale et on prendra du temps avec toi pour échanger. Je vais inviter... Alors maintenant, on va passer une vidéo. Donc on a une présentation des éclaireurs évangéliques de France. Qui sait ce que c'est les éclaireurs évangéliques de France? Il y a quelques anciens, je vois, ils lèvent les mains là. Donc on a un service scout à l'EPI qui sert ici à l'EPI. On va envoyer une petite vidéo de présentation et puis je vous donnerai quelques informations juste après cette vidéo.
Au commencement tu étais là, tu as dit que la lumière soit, les astres ont écouté ta voix, la terre a tourné pour la première fois, avec amour, sagesse et art, tu écrivais notre histoire, tu nous as fait à ton image, donner la terre pour héritage. Mais qui peut se comparer à toi? Tu appelles à la vie ce qui n'existe pas. Qui peut se comparer à toi? Oh,
alors si vous avez des enfants entre 8 et 17 ans pleins d'énergie et puis que vous voulez orienter cette énergie vers des choses qui vont les aider à apprendre des choses, à découvrir des choses, n'hésitez pas à aller voir Naomi qui va se tenir dans le hall d'accueil à l'issue de la célébration. Donc les scouts, c'est du bricolage, c'est des grands jeux, c'est aussi du service à la personne de temps en temps. Donc voilà, si vous avez des enfants 8-17, n'hésitez pas à aller voir Naomi à la fin de la célébration. Une dernière annonce, et je vais inviter mes deux sœurs à venir, Anne... Et je suis fatiguée, Sandrine, je suis désolée. Il y a un micro pour... c'est toi qui as les deux. Donc pour une annonce particulière et importante aussi pour la vie communautaire de notre église, et je vous laisse toute la place.
Bonjour à tous.
Bonjour. Alors moi c'est Anne.
Moi c'est Sandrine.
Voilà, et on va vous présenter quelque chose qu'on avait déjà mis en place il y a 4-5 ans avant le confinement. C'est les repas fraternels dans les maisons où chacun va pouvoir s'inscrire et inviter quelqu'un à sa table.
Alors c'est un moyen de faire connaissance et par exemple Anne et moi on s'est connus comme ça et maintenant on travaille ensemble pour relancer ça.
Voilà. Donc le principe c'est un repas entre 6 adultes maximum, hein, ça dépend, ça peut être moins, et avec des enfants ou pas. Alors pourquoi ce repas ?
Eh bien, pour s'intégrer à l'église, pour faire connaissance avec d'autres personnes que vous ne côtoyez pas forcément, apprendre à se connaître, tisser du lien.
Voilà, et puis favoriser la koinonia.
Terme très cher à Mathieu.
Alors, pourquoi ce repas ? Pour s'intégrer dans l'église, très important, on a une grande église. Et ça tu l'as déjà un petit peu dit. Alors qui c'est qui est concerné ? Toutes les personnes de l'EPI. C'est vraiment pour nous important que chacun puisse se sentir concerné, les personnes seules, les couples, les familles, voilà.
Alors concrètement, comment ça se passe ? Vous allez vous inscrire et nous, on va faire des groupes avec 2-3 familles selon les configurations. Et on va définir qui va accueillir. Par exemple, là, sur notre exemple, on a la famille Schneider qui va accueillir. Et elle va accueillir son invité, le couple Okobe, et la famille Dupont. Donc la famille Schneider va faire le plat principal, le couple Okobe va amener l'entrée, et la famille Dupont va amener le dessert.
Voilà. Donc, pour participer, là, il y a un QR code qui s'affiche. Nous, ça... C'est ce qui sera le plus pratique pour nous. Vous flashez le QR code, si ça fonctionne. Ou en tout cas, on aura aussi un stand juste à la fin de la célébration. Et ça vous permettra d'arriver sur le questionnaire. Et puis, vous mettrez vos coordonnées, etc. pour vous inscrire.
Donc, on vous accueille dans le hall. On aura le QR code sur place. On fera aussi un stand dimanche prochain et le dimanche d'après. Donc, sur ces trois dimanches-là, vous pouvez vous inscrire soit directement au stand d'accueil, soit vous récupérez le QR code pour pouvoir vous inscrire de chez vous après. Ensuite, on fera les groupes et puis on reviendra vers vous pour un repas qui aura lieu dans le premier trimestre scolaire, donc octobre, novembre, décembre.
Voilà.
Merci.
Merci à tous.
Merci Sandrine, merci Anne pour cette présentation qui nous donne envie de vivre la koinonia. La koinonia, qu'est-ce que c'est ? C'est la communion, tous ensemble, les uns avec les autres, développer des relations. Maintenant, j'ai le privilège de vous présenter notre oratrice du jour. Vous savez, le Seigneur a fait des dons à l'Église, des dons de personnes, de gens avec des capacités, des dons particuliers. Et à l'EPI, on est particulièrement reconnaissant d'avoir au milieu de nous Yolande Schwab, conseillère en relations d'aide. Et on aime toujours avoir son regard aussi sur des situations de vie, c'est pourquoi elle intervient à intervalles réguliers à l'EPI. Parce que vous savez, nous ne sommes pas juste un esprit et une âme désincarnée. Nous sommes esprit, âme et corps. Et toutes ces choses de la tripartie de qui nous sommes a besoin d'être adressées. Et la Bible a des choses à dire sur ces aspects. Voilà pourquoi on bénit Yolande et on remercie le Seigneur de l'avoir au milieu de nous. Et je voudrais juste prier avec elle avant qu'elle partage son message de ce matin sur le bon combat. Seigneur, je te prie pour ta parole ce matin. Merci pour ce que tu as déposé sur le cœur de Yolande. Je te prie que ça puisse aussi devenir esprit et vie pour chacun d'entre nous. Merci Père parce que tu lui as donné un message particulier pour l'Église ce matin et peut-être pour nous individuellement. Alors je te prie de la remplir de toi, de la conduire encore dans tout ce que tu as déposé sur son cœur. À toi la louange et la gloire Jésus. Amen. Amen.
Merci RP. Bonjour. Vous savez que quand moi j'interviens du haut de cette estrade, c'est pratiquement toujours pour vous partager des choses. Je dois reculer. Des choses qui me turlupinent depuis quelques semaines par rapport à ma propre vie et aussi par rapport aux personnes que j'accompagne. Je ne sais jamais trop où ça commence, si c'est parce que je vois des choses dans la vie des gens que ça me renvoie à moi ou inversement. Et ces derniers mois, ce qui m'a travaillé, c'est l'influence du monde sur nous dans certains domaines. Alors bien sûr, dans certains domaines, parce que l'influence du monde, elle est vaste. Et sous l'influence du monde actuel, j'ai vu deux risques majeurs chez moi et chez les chrétiens que j'accompagne. Le premier risque, c'est de se débattre dans des combats intérieurs, vivre des pressions qui n'ont pas lieu d'être. En tout cas, je crois que Dieu ne voudrait pas qu'on patauge là-dedans. Et puis ça crée beaucoup de culpabilité, beaucoup d'épuisement. Ça, c'est le premier risque. Et le deuxième risque, qui est l'inverse, à la limite, c'est d'éviter des domaines où il devrait y avoir combat. Mais on les vit pas. Parce qu'on est tellement centré sur nous-mêmes qu'on passe à côté. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre, « Choisis le bon combat », faisant bien sûr référence à ce verset dans Paul à Timothée, « Combat, le bon combat de la foi ». Ça m'a interpellée, je me dis, s'il y a un bon combat, ça veut dire qu'il peut y en avoir des mauvais. Mon objectif ce matin, c'est de donner quelques repères à travers plein d'exemples. Là, aujourd'hui, je vais vous bombarder d'exemples très concrets. Pour peut-être réveiller les consciences, pour ne pas se tromper de combat, pas perdre notre énergie là où ce n'est pas nécessaire. Alors je rappelle, c'est important, hein, que j'aborde les sujets sur le plan de la vie psychique et relationnelle, comme Raymond-Pierre l'a dit, en faisant le lien avec la parole de Dieu. C'est vraiment mon périmètre d'intervention qui vient de manière complémentaire aux autres messages dans cette église. Donc deux grands points, les combats inutiles, épuisants. Deuxième point, l'absence de combat là où il faudrait qu'il y en ait. Ça va? Donc grand A, les combats épuisants. Et pour moi, ou dans mon expérience, ils se situent essentiellement, je ne dis pas que c'est les seuls bien sûr, hein, mais essentiellement autour du fait que je n'accepte pas mes limites. Je n'accepte pas mes limites. Je vous vois, hein, vous êtes en train de dire, oh là là, où est-ce qu'elle nous emmène? Le fait d'avoir des limites fait partie de notre condition humaine et est voulu par Dieu. Job, tu as fixé à l'homme des limites qu'il ne franchira pas. Ou dans Genèse, dès le départ, il y a eu des limites. Tu peux manger de tous les arbres, les fruits de tous les arbres, sauf un. Tu n'es pas Dieu, tu as des limites. Grosso modo, il y a deux grandes familles de limites. Il y a les limites communes à tous, le temps, le manque, la solitude, la souffrance, l'impuissance, la mort. On est tous confrontés à ça, d'une manière ou d'une autre. Alors, je ne vais pas approfondir ces thèmes. Si vous avez envie d'approfondir, on va projeter le lien de la Traversée. La Traversée, c'est une association de relations d'aide sur Strasbourg. J'en fais partie. Et nous avons fait une conférence au mois de mars dernier sur cette question des limites. Donc, vous pouvez le trouver sur le site de la Traversée. Donc, ça, c'est les premières limites communes à tous. Les deuxièmes limites, elles sont personnelles. Ce n'est pas des défauts, d'accord ? C'est des limites personnelles. Par exemple, l'intelligence. Nous n'avons pas tous la même forme d'intelligence. Le tempérament, le fait d'être plutôt rapide ou lent, d'être plutôt introverti, extraverti. Ce n'est pas des défauts, c'est des différences. Des blessures liées à notre histoire. Notre capital santé n'est pas le même. Et certaines limites peuvent bouger parce qu'on peut cheminer, il y a des guérisons possibles, mais d'autres limites, nous devons apprendre à cheminer avec. Et la non-acceptation des limites de ma condition humaine engendre beaucoup de luttes, de combats et de culpabilité. Alors je me permets de dire tu et de te poser une question, des questions que je me suis posées à moi. Penses-tu parfois que tu n'es pas assez ceci ou cela, ou que tu ne fais pas assez pour satisfaire Dieu. Et tu culpabilises beaucoup. Ça pourrait peut-être, je dis bien peut-être, je ne sais pas, avoir un lien avec des limites dans ta vie que tu n'acceptes pas. Et je voudrais te demander ce matin d'essayer d'aborder les choses sous cet angle-là. Ça ouvrira peut-être des perspectives. Je vais donner trois exemples qui montrent que je n'accepte pas mes limites. Ce sont des exemples. Tu t'y retrouveras peut-être pas à 100%, mais peut-être ça fera écho à d'autres limites, à d'autres situations de ta vie. Exemple numéro un, que je n'accepte pas mes limites, et c'est marrant parce que Raymond Pierre vient d'y faire allusion il y a juste un moment. Je veux être irréprochable aux yeux de Dieu et aux yeux des autres, et le regard des autres compte beaucoup pour moi. Je m'appuie peut-être même sur des versets comme « Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait ». Mais dans ce cas-là, je confonds la sainteté avec le perfectionnisme. Et mon père en a parlé. Et je vais viser une perfection épuisante par mes propres forces. Il ne laisse pas de place à de la fragilité, à de la vulnérabilité ou à une limite. Je vais vous donner les batailles empoisonnées du perfectionnisme, qui nous pourrissent la vie, qui nous épuisent, qui nous culpabilisent. Le légalisme. C'est quoi le légalisme? Beaucoup de « il faut » dans ta vie. Des « il faut » qui ôtent la joie. L'inverse, ça serait « je veux ». C'est pas « il faut ». Je veux parce que dans la vie, il y a des obligations, il y a des cadres, il y a des choses. Mais je veux parce que j'ai compris. Parce que j'ai choisi, je ne subis pas. Donc le légalisme qui ôte la joie. Le durcissement du cœur. Mon cœur se durcit quand je suis perfectionniste. À cause de mes exigences élevées, je suis dans le jugement de moi, déjà, en premier, et des autres. Et puis, un grand autre bataille, un grand sentiment de frustration. Je suis tout le temps frustrée parce que je ne suis jamais à la hauteur de mon idéal et les autres non plus. Et on tourne en rond et on bataille. Le soubassement de cette croyance, de ce comportement plutôt, c'est la croyance que seules les personnes qui sont parfaites, qui sont impeccables, sont dignes d'être aimées. On relie rarement le perfectionnisme à ça. Mais fondamentalement, au fond de notre être, on n'en a pas forcément conscience. C'est parce que je crois que je ne suis pas digne d'être aimée. Donc il faut que je fasse plein de choses pour être le plus parfait possible. Je ne creuse pas plus. Si vous avez envie d'approfondir, allez chercher dans les archives de l'Église. J'ai cherché en mai 2021, j'ai fait un message sur le perfectionnisme. Quand nous sommes dans cette bataille du perfectionnisme, nous oublions que Dieu nous aime comme nous sommes. D'accord ? Il nous accepte, il nous accueille comme nous sommes. Et à partir de cet accueil, il nous fait cheminer. Je sais, vous l'entendez tous les dimanches. Et pourtant, dans nos comportements, ce n'est souvent pas ça. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas, il y a un cahier de charges. Il faut que j'atteigne un certain niveau pour que Dieu puisse cheminer avec moi. Il m'accueille comme je suis et je chemine. Je t'aime d'un amour éternel. Éternel, ça veut dire avant que je connaisse Dieu, pendant, après. Nous avons un grand prêtre capable de compatir à nos faiblesses. L'Esprit vient en aide à nos faiblesses. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dans la nuit de jeudi à vendredi, j'arrivais pas à dormir, pour changer, et vous savez, quand on ne dort pas, en tout cas moi, ça tourne beaucoup dans ma tête et je pensais à ce message, à cette question du perfectionnisme parce que je suis légèrement concernée. Et je ne sais pas, je ne peux pas vous expliquer, c'est la première fois que ça m'arrive. Tout à coup, c'est comme si il n'y avait que des dias de ma vie qui passaient dans ma tête. les souvenirs qui sont revenus comme ça, les uns après les autres. Des vieux souvenirs que j'avais un petit peu oubliés. Des souvenirs de choses dont je ne suis pas fière. Où il y avait du légalisme, où il y avait de la dureté de cœur, où il y avait de la frustration, où il y avait des comportements pas OK du tout. J'avais les larmes qui coulaient, mais pas écrasées. Je ne sais pas comment vous expliquer. Oups, je suis émue là. J'étais juste tellement touchée de l'amour de Dieu. De me dire, Seigneur, tu m'as reprise plein de fois. Tu m'as secouée un petit peu parfois. Tu m'as toujours repêchée. Tu ne m'as jamais disqualifiée. Je n'ai pas besoin d'être parfaite. Je dois cheminer, mais je n'ai pas besoin d'être parfaite pour être accueillie par Dieu. Exemple numéro 2, que je n'accepte pas mes limites. Je n'accepte pas les contraintes du temps. Notre temps est limité. Mais on fait souvent comme si c'était un sac un peu élastique et on met plein de trucs dedans pour et ça se gonfle. On a des agendas archi-pleins. La non-acceptation de cette limite vient, je pense, en grande partie de la vie qu'on mène aujourd'hui, et ce n'est pas évident, clairement, hein, je ne dis pas que c'est facile. Ça peut venir aussi d'une mauvaise compréhension de la parole. Paul a dit, il faut racheter le temps. Les temps sont mauvais, le temps est court. Mais quand même, deux conséquences j'aimerais relever si je n'accepte pas cette limite. Je suis toujours occupée, agitée, engagée. Je me pose jamais, je ne me repose jamais. Il y a des personnes qui culpabilisent dès qu'elles se posent. Une dame que j'accompagne me disait que sa maman lui disait tout le temps, se reposer, c'est de la fainéantise. Et aujourd'hui, c'est une maman qui a 5 enfants, qui court tout le temps, qui est pour moi au bord du burn-out. Chaque fois que je l'accompagne, je me dis, est-ce qu'elle est encore là ou est-ce qu'elle a craqué ? Et elle me dit, Yolande, m'arrêter, me reposer, j'ai le sentiment que c'est la mort, que je vais mourir. Pourtant, Dieu s'est reposé de ses œuvres. Et il y a toute cette invitation à entrer dans le Shabbat de Dieu. Et nous avons besoin de temps pour cultiver notre intimité avec Dieu. Conséquence numéro 2, ne pas accepter la limite du temps. C'est aussi la non-acceptation de la lenteur nécessaire, parfois, pour cheminer, pour progresser, pour récupérer d'un échec, se restaurer, parce qu'on voudrait que ça aille vite. Parce qu'on vit dans un monde qui va tout le temps vite, donc on voudrait que tout aille vite. Je suis une nouvelle créature, donc c'est bon. C'est le cas des personnes, par exemple, qui ont un traitement long et qui doivent accepter le facteur temps. En particulier, je me permets de nommer les traitements antidépresseurs. Il faut du temps pour que ça agisse. Et souvent, on arrête trop tôt et on replonge parce qu'on n'accepte pas le temps nécessaire au rétablissement. Et quand nous sommes dans cette bataille contre le temps, nous oublions que la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses, sous les cieux. Un temps pour naître, pour mourir, un temps pour un tas de choses. Un temps pour cheminer. Nous ne sommes pas dans le monde de l'instantané. Exemple numéro 3, que je n'accepte pas mes limites, et que je rencontre très souvent dans mon travail d'accompagnement. Je veux être quelqu'un d'autre. Je n'accepte pas qui je suis. Je veux être plus grand, plus petit, plus mince, plus intelligent, plus ou moins je ne sais pas quoi. D'accord ? Je louche sur les dons et les talents de l'autre et je trouve les miens méprisables. Je vous rappelle qu'il y a une différence entre être inspiré par quelqu'un et vouloir être quelqu'un. D'accord ? Je peux être inspiré, quelqu'un me... Waouh, ça me donne des idées, ça me donne envie, ça me donne envie d'aller de l'avant. Mais je ne veux pas être... lui ou elle. Et ça, ça génère des combats destructeurs. Convoitise, comparaison, jalousie, rivalité, auto-dépréciation, deux versets m'ont vraiment interpellée en préparant. Waouh. Quand j'ai relu ça, Paul dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Et sa grâce n'a pas été vaine. C'est vraiment un verset que nous devrions, entre guillemets, nous approprier. « Seigneur, par ta grâce, je suis ce que je suis. » Mais je veux que ta grâce ne soit pas vaine dans ma vie. Je suis ce que je suis. Et à partir de ce que je suis, je chemine. Je vais de l'avant. Je me déploie. Il y a un autre, dans les psaumes, un autre verset. « Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Mon héritage est merveilleux. » Alors bien sûr, il s'agissait du peuple d'Israël. Il s'agissait de la répartition des territoires, je crois. Mais je me suis dit, nous, comment pouvons-nous nous approprier ce verset ? La part que j'ai reçue, c'est déjà la vie que j'ai. C'est aussi cette nouvelle vie en Christ. C'est un défi d'en faire un jardin merveilleux, délicieux. La parabole des talents, elle nous invite à utiliser les dons que nous avons reçus, ce qui nous a été donné. Alors, souvent, on se fixe sur celui qui n'en a qu'un, et on se dit, oh, le pauvre, il n'en a qu'un, et en plus, il s'est fait bien remettre en place. Mais en fait, on oublie aussi que dans la Bible, quand il est question de talent, il est question d'argent. D'accord ? C'est une monnaie. Et celui qui n'avait eu qu'un talent avait eu l'équivalent, à l'époque, de 16 années de salaire. OK ? Donc, si on prend le SMIC... Et si je vous fais cadeau de 16 années de SMIC, vous allez cracher dans la soupe. OK ? C'est un petit pactole qui permet de faire quelque chose, de se déployer. Alors bien sûr, les autres à côté, ils étaient multimillionnaires. OK ? Mais il avait eu quelque chose. J'ai perdu mon... J'ai accompagné un jeune homme, 25 ans, qui travaillait dans une start-up chrétienne, qui s'éclatait dans son travail. Et pourtant, il était torturé par l'idée de « je dois trouver l'appel de Dieu sur ma vie ». Je suis un peu allergique à ça, parce que je trouve qu'il y a une pression. Il courait le risque de passer à côté de ce qui lui était donné de vivre à ce moment-là, et qu'il aimait en plus. Tout en restant à l'écoute de ce que Dieu pouvait lui dire au fur et à mesure qu'il avance, mais dans la paix et dans la confiance. Mais il lorgnait, il se comparait à d'autres. Et du coup, il n'était pas pleinement dans ce que Dieu l'amenait à vivre à ce moment-là. Donc, trois exemples, parmi plein d'autres. Je n'accepte pas les limites de mon imperfection. Je n'accepte pas la limite du temps dans lequel je vis. Je n'accepte pas la limite de qui je suis. Alors, si tu te retrouves, peut-être dans une, si ça fait écho, ou si ça fait écho à tout à fait autre chose, je crois que Dieu veut t'inviter, nous inviter, m'inviter, à une acceptation profonde et active de ta réalité, de notre réalité. Ce n'est pas de la résignation, c'est de l'acceptation. Simone Paco, qui a écrit beaucoup de livres, a dit « On ne peut devenir ou cheminer qu'à partir de ce que l'on accepte d'être. Si on refuse ce que l'on est, soit on s'immobilise et on se juge, soit on s'illusionne et on s'empêche de devenir. On s'empêche de devenir. Une acceptation profonde et active de ta réalité pour pouvoir cheminer. Si je n'accepte pas ma vie, ma réalité, je lutte contre moi-même. Et quand je suis en lutte contre moi-même, dans ce sens-là, je ne peux pas avancer. Donc ça, c'était le premier point. Là où il y a des batailles épuisantes, inutiles. Inutiles dans le sens que Dieu ne veut pas ça pour nous. Il faut qu'on soit libre de ces choses-là. Maintenant, on va voir le deuxième point. L'absence de lucidité, là où il devrait y avoir des combats. Et j'aimerais mettre ce matin le projecteur sur notre côté égocentrique. Être égocentrique, c'est tout ramener à soi, ne voir le monde qu'à travers ses propres intérêts. Ça a toujours existé, c'est le propre de l'homme sans Dieu. D'accord ? Paul en a parlé, le moi, il en parle dans ses épîtres, le moi qui prend toute la place. Mais je crois que c'est accentué aujourd'hui, parce qu'on a une société individualiste où le moi est idolâtré et que tout est permis pourvu que je sois épanouie. C'est moi qui vous dis ça, qui ai un cabinet de développement personnel, relation de... Je suis frappée combien nous, les chrétiens, nous sommes aussi terriblement influencés par cette mentalité. C'est-à-dire que nous sommes très centrés sur notre nombril. Alors, je vais donner plein d'exemples concrets dans un moment, mais avant, je veux vraiment préciser. Nous chutons tous, ok ? Jean, dans l'épître de Jean, la première, celui qui prétend ne pas avoir péché vit dans l'illusion. Donc, nous chutons tous. Nous avons des mauvaises attitudes, des mauvaises paroles, blessantes, des réactions vives et inadaptées. Pourquoi ? Parce que notre petit moi, il est vexé. Il est un peu piqué. Ça ne me choque pas. J'ai dit, on n'était pas parfait, on était en cheminement. Mais ce qui me choque, et ce qui m'interpelle vraiment, et là, je suis désolée si je mets les pieds dans le plat ce matin, ce qui m'interpelle, c'est quand il n'y a aucune remise en question. C'est quand il n'y a pas ce mouvement d'entrée en soi-même. Vous savez, la parabole du fils prodigue. Le fils qui a réclamé sa part d'héritage, qui est parti la dilapider, qui s'est retrouvé à garder des cochons. La Bible nous dit qu'à un moment donné, il est entré en lui-même. Il a examiné sa situation et il a fait demi-tour et il est revenu vers son père. Et ce qui m'interpelle, c'est quand il n'y a pas cette démarche-là, quand il n'y a pas ce retour et cette demande de pardon. Comment est-ce compatible avec la présence du Saint-Esprit dans nos vies? Où est l'action du Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement? Alors, comme tout à l'heure, je me permets de te poser une question. As-tu des domaines dans ta vie où tu as conscience d'être exécrable, de blesser les personnes autour de toi? Et tu ne demandes pas très souvent pardon? Parce que tu te trouves des excuses? Tu justifies ton comportement? Parce que l'autre, franchement, est pénible? Peut-être. As-tu besoin d'être réveillé par le Saint-Esprit pour mener le bon combat? Je vais de nouveau donner quelques exemples. Pareil, ça te rejoint, ça ne te rejoint pas. Essaie juste d'entendre et peut-être ça fera écho à autre chose. Premier exemple d'égocentrisme, j'appelle ça « je fonctionne en mode moi-je ». Moi-je, je veux être le centre de l'attention. Je veux qu'on me remarque. Vous allez me dire, mais non, Yolande, je ne fais pas ça. Alors, je te donne un petit indicateur. Si tu es en groupe, tu passes une soirée ou une réunion ou n'importe quoi, et que personne ne t'adresse la parole, ou si tu n'as pas ta place d'une manière ou d'une autre, tu le vis très, très, très mal. Tu as le sentiment de ne pas exister. Ça peut être aussi, je parle beaucoup de moi, je prends beaucoup de place, je ramène tout à moi, quelqu'un vous parle, ah oui, moi aussi, et on n'écoute plus. Je n'écoute pas les autres, ils ne m'intéressent pas forcément tant que ça, etc., etc. Nous avons tous besoin d'écoute et d'attention, mais chacun a tour de rôle. Dans 1 Corinthiens 12, il est dit que le corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Et tout le chapitre développe le fait que chaque organe a sa place et on doit veiller à la place de chaque organe. Surtout n'en zapper aucun. Que de dégâts dans les familles, dans les équipes bénévoles, professionnelles. Deuxième exemple d'égocentrisme, je manque de considération à l'égard d'autrui. La Bible dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Aussi ceux des autres. On ne va pas tomber dans l'autre extrême. D'accord ? La Bible dit aussi, chacun devra répondre pour lui-même. Donc, je suis responsable de ma vie. Donc, je dois prendre mes intérêts en compte. Je suis responsable de tout ce que je fais, de tout ce que je pense, de tout ce que je dis. C'est ma responsabilité. Et en même temps, je tiens compte des autres. Je vous donne des exemples. Une femme que j'accompagne qui n'en peut plus parce que son mari refuse de se faire soigner. Il a des problèmes psy avérés qu'il reconnaît, mais refuse de se faire soigner. Toute la famille en subit les conséquences. Manque de considération. Autre personne, problème de dépression, prend un traitement. Donc déjà mieux qu'avant. Mais refuse de se faire accompagner, que ce soit au niveau psychologique ou spirituel. Refuse de remettre en question sa carte du monde, sa façon d'envisager la vie, qui la rend malheureuse et tout le monde en est convaincu autour. Il faudrait que ça bouge dans sa manière d'envisager les choses. Elle refuse. Tout aide. Et c'est l'enfer pour la famille autour d'elle. Manque de considération. Une autre personne me disait, « Ouais, j'ai du sang italien dans les veines. Moi, ça pulse. Et pas quand je suis fâchée. Ce qui sort, c'est pas toujours top. » Il faut s'y faire, il faut faire avec. Non. Niette. Manque de considération. Alors bien sûr, il y a des tempéraments qui sont plus sanguins que d'autres, d'accord ? Mais tous nos tempéraments doivent être soumis au Saint-Esprit. Une personne non-voyante me racontait combien elle souffrait parce que son entourage voulait toujours savoir mieux qu'elle ce qui était bon pour elle. Vous comprenez ? Et elle me disait, personne ne m'écoute quand je dis, mais demandez-moi d'abord avant de faire à ma place. Je parle d'adulte, hein, je ne parle pas d'enfant. Ne m'imposez pas ce que vous pensez être juste. Alors, c'est un manque de considération qui part d'une bonne intention d'aider, mais qui est à côté de la plaque. Alors, vous allez me dire, ben, je n'ai pas de personne non-voyante dans mon entourage. Mais dans quel domaine imposons-nous les choses aux autres, notre façon de voir, ce que nous pensons être juste pour l'autre, à sa place. Troisième exemple d'égocentrisme, je suis tyrannique et exigeant envers les autres. Par définition, une personne tyrannique se caractérise par sa volonté de se positionner, alors soit de façon dominante, autoritaire et catégorique envers les autres. Concrètement, une personne tyrannique, elle ne demande pas, elle exige. Elle ne s'exprime pas, elle revendique et elle ne supporte pas grand-chose en termes de frustration. La Bible dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par estime mutuelle, usez de prévenance réciproque. Usez de prévenance réciproque, c'est l'antidote de l'attitude tyrannique. Un exemple, je rentre du travail, j'ai eu une longue journée de travail. Je considère que là, j'ai le droit de me reposer. Je veux et j'exige qu'on me fiche la paix. J'ai rencontré ça souvent dans les difficultés de couple, quand un des deux a cette position-là. J'ai envie de dire, nos journées de travail ne se terminent pas quand nous fermons la porte de notre bureau ou nous quittons notre lieu de travail. C'est peut-être, je me suis dit, peut-être, valable pour nos amis célibataires. Et encore. Et j'ai envie de dire, il faut bien que le célibat ait un avantage. OK ? Mais pour tous les autres, la journée de travail, elle va se terminer quand nous allons nous coucher. Avec un peu de chance, parfois un peu avant. Je peux être tyrannique par rapport à mes besoins. Quelqu'un d'autre disait, j'ai des problèmes de santé et je pense que les autres doivent se plier devant moi car ce que je vis est plus grave qu'eux. Je n'ai pas le droit d'utiliser mes soucis, même mes souffrances, que ce soit ma santé, mon hypersensibilité par exemple, sujet qui revient souvent, mon manque de sommeil, mon insatisfaction de vie ou autre problème comme moyen de manipuler mon entourage ou comme prétexte pour devenir tyrannique. Bien sûr, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, bien sûr que nous avons le droit d'exprimer notre souffrance, nous avons le droit d'exprimer notre découragement, notre mal-être, mais pas de l'utiliser comme un outil pour faire tourner les autres autour de nous. Donc trois exemples parmi d'autres, le mode moi-je, le manque de considération, l'attitude tyrannique. Et si tu te retrouves dans une de ces attitudes, ou si ça fait écho à autre chose dans ta vie, je crois que Dieu veut nous dire ce matin que c'est le moment de venir au pied de la croix et de mener un bon combat. Ce n'est pas naturel de venir au pied de la croix. Notre ego, il n'a aucune envie d'y aller. Donc il y a combat là. Et il y a un bon combat à mener. En conclusion, je crois que la Bible nous encourage à ce double mouvement. D'un côté, laisser Dieu sonder notre cœur, et de l'autre, faire un examen personnel. Les passages, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Autrement dit, si je reste sur le sujet de ce matin, montre-moi si je suis sur la voie de l'égocentrisme ou si je n'accepte pas une de mes limites, de ma condition humaine, et conduis-moi à sortir de là. Ça, c'est le premier mouvement. Dieu sonde mon cœur. Deuxième mouvement, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Autrement dit, je m'arrête, je prends le temps d'examiner mon comportement, mes pensées, mes motivations, à la lumière du fil à plomb de la parole. Pas mes critères à moi, pas les critères de ce monde, mais ceux de la parole. Parfois, quand nous réalisons que notre cœur est trop dur, et vraiment, moi j'ai vécu ça, de réaliser combien mon cœur est dur. C'est important de demander à Dieu de nous convaincre de péché, de nous faire la grâce d'une conviction de péché. Après la prise de conscience, c'est important de se repentir. La repentance, c'est le pôle spirituel de la prise de conscience. Parce que les non-chrétiens peuvent avoir conscience qu'ils ont fauté et peuvent faire une démarche de pardon envers l'autre. Mais la repentance, c'est encore quelque chose de plus profond. C'est un retournement, un mouvement au plus profond de notre cœur, comme le fils prodigue, un retour. Je vous propose, avant le chant, de prendre juste quelques secondes de silence et chacun se laisse examiner. Et peut-être, Raymond Père, tu pourras juste terminer par la prière.
Seigneur, ta parole est un miroir. Tu nous invites, Seigneur, à aller nous regarder dans ce miroir. Merci pour cet encouragement, ces éléments de réponse, de réflexion que Yolande nous a apportés ce matin, Père, pour nous inviter, Seigneur, à te laisser nous scanner, à nous révéler peut-être des choses cachées, enfouies, comme on l'a entendu ce matin, dont peut-être on n'a pas conscience. Permet que ces choses remontent à notre vue, Seigneur. afin que nous puissions faire cet acte de repentance comme on l'a entendu. Merci Seigneur, parce que lorsque tu mets le doigt sur quelque chose, c'est pas pour nous détruire, c'est pas pour nous enfoncer, c'est pas pour nous dévaloriser, mais c'est pour qu'on puisse en être libéré, c'est pour qu'on puisse grandir, qu'on puisse maturer. Merci Seigneur, parce que nous avons ce libre accès à toi encore ce matin. Et vraiment merci pour ces différents exemples de vie, de situation que Yolande nous a partagé, Père, qui, je le crois, ont cette capacité, Seigneur, à nous aider à grandir, parce que ton désir, Père, c'est que tu prennes davantage de place en nous, c'est-à-dire dans nos actions du quotidien, dans nos interactions avec les autres, dans notre relation avec toi, que tu prennes davantage de place et que notre nature corrompue par le péché, Seigneur, puisse diminuer. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu as commencé une œuvre en nous et que tu l'amèneras à son terme. Mais Seigneur, aide-nous, Seigneur, à pas nous prendre les pieds dans le tapis de nos propres choses auxquelles on veut pas accepter de regarder ou auxquelles on refuse de voir l'existence. Seigneur, on va encore nous laisser scanner ce matin comme ce psaume que Yolande nous a lu à la fin. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Tu connais mes pensées, Seigneur. Que ça puisse être l'état d'esprit, la mentalité de l'Église de l'Épi pour toute cette année. Une Église qui accepte le scan divin afin de pouvoir grandir, afin de pouvoir se développer et faire la différence, Seigneur. Merci Jésus pour ton tact. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es celui qui te met à la hauteur, qui nous rejoint là où on en est pour nous amener plus loin. Quel Dieu merveilleux nous avons, mes amis, ce matin. On veut célébrer Jésus pour qui tu es, pour ton tact, pour ta douceur, pour la transformation que tu opères jour après jour, pas après pas. Tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Quelle grâce de te connaître. Quelle grâce de t'avoir dans nos vies, Jésus. À toi la louange et la gloire. Et puis que peut-être que tous ceux qui sont d'accord avec ce que vous avez entendu, ou en tout cas d'accord de dire « Ok, Seigneur, challenge-moi », est-ce qu'on peut dire « Amen » ce matin ? Amen. Merci Seigneur, merci Yolande pour l'écoute de Dieu dans cette prédication ce matin.
Fortifie mon espérance. La
Est-ce qu'on peut chanter ça comme une prière? Je continuerai, avec ce qu'on a entendu dans ce message ce matin, je continuerai à laisser Dieu m'accompagner pour abattre mes forteresses internes ce matin. Que ça puisse être une prière ce matin. Et je crois que Dieu veut opérer encore ce matin dans les cœurs et dans les vies. Qu'on le proclame, je continuerai.
Ce que voient mes yeux, je sais qu'il est vivant, il est le Tout-Puissant, celui qui siège dans les cieux.
Je continuerai, proclame-le,
et je continuerai de te glorifier, car dans tes promesses. Je suis plus que vainqueur. Je donnerai l'honneur à mon Dieu, mon sauveur. Qu'importe ce que voient mes yeux. Je sais qu'il est vivant, il est le Tout-Puissant, celui qui siège dans les cieux. Je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir.
Je crois en toi.
Oh Dieu, je crois.
L'accomplir, est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à Jésus dans ce lieu ce matin? Voilà, je vous invite à garder dans vos cœurs durant toute cette semaine, à réfléchir, peut-être à revenir à ce message. Vous savez que vous avez accès sur YouTube, vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez faire des pauses pour prendre des notes, des choses qui vous ont interpellé, etc. N'hésitez pas, le YouTube, il est là pour ça. Et puis, ben, on se sépare, les internautes, malheureusement pour vous, ça s'arrête là. Pour les autres, vous avez l'occasion de pouvoir encore échanger, discuter dans ce lieu. Alors les internautes, si vous avez envie de vivre la koinonia, la communion, venez, si vous n'êtes pas loin de cette rue des Frères Hébert, on vous attend chaque dimanche, on est là. Et vous pourrez aussi connecter avec d'autres frères et sœurs qui vivent la même bataille de la foi que vous et qui veulent vivre le bon combat. Bon dimanche à chacun, chacune.